Écoutez. À midi.
Mesdames et messieurs, attention au décollage. La Baroudeur vous emmène à la rencontre de Nantais qui ont la bougeotte. Musique exotique, récits de voyage, culture du monde. Embarquez pour une heure de dépaysement sur Prune 92 FM. Bonjour à tous et à toutes. À la Baroudeur, on respire le bonheur. Le pass vaccinal est levé, les masques sont retirés, le printemps est presque là. Bref, c'est le paradis sur Terre. Pourtant, une note de tristesse vient désaccorder mon ode à la joie puisque notre cher Tom, le plus sexy des techniciens, nous abandonne pour la capitale, qui a sans doute plus à lui offrir que je n'en aurais jamais pour lui. Et Lara, ah ma douce Lara, que tout le monde s'arrache, toi qui étais si fidèle au poste depuis le début de cette émission, tu as été demandée ailleurs et donc vous me laissez seule pour cette émission. Heureusement, je suis en chaleureuse compagnie. Salut Nina, est-ce que ça va ?
Bonjour, oui, ça va très bien, merci.
Eh bien, je suis très contente de te recevoir. Merci beaucoup d'être là et de m'accompagner vu que mes amis m'ont abandonnée. Aujourd'hui, on va apprendre plein de choses sur le Pakistan et sa culture. Parce que Nina, tu es allée tous les ans au Pakistan de 2011 à 2018, date à laquelle tu y as ensuite emménagé. C'est bien ça ?
C'est à peu près ça, oui.
Et tu nous as dit, quand on préparait l'émission, je cite, « Il y a un tel décalage entre ce qu'on entend du pays et sa réalité que c'est comme si on m'avait ouvert les portes d'un pays magnifique où personne ne va et qui est tenu quelque part secret des touristes. » C'est très beau. Et ça, je suis bien curieuse de savoir en fait quelle image toi tu as maintenant du pays puisque tu le connais bien. Et particulièrement puisque tu dis de ce qu'on entend. Donc je me suis dit que pour commencer, ça serait sympa qu'on fasse un peu un tour de table. Bon, du coup, on est deux, mais tu comprends l'idée. Où on dit un peu ce qu'on pense du pays. Alors personnellement, je vais commencer, ça m'évoque, et moi je ne connais absolument pas du tout le pays, je ne connais vraiment pas bien ce pays. Je pense à quelque chose d'assez pauvre en fait, où il y a un peu la guerre, où j'imagine... Alors j'imagine pas non plus la misère, j'imagine quand même que les gens sont heureux avec le peu qu'ils ont, mais j'imagine quelque chose où il y a un peu d'insécurité quand même. Et c'est très flou. Voilà, c'est un peu la seule image que j'ai, j'entends pas grand-chose sur ce pays. En France, on en parle presque pas en fait. Et du coup, non, j'ai hâte de découvrir comment tu vas faire pour revaloriser cette image qui n'est, ma foi, pas très glorieuse. Toi, t'avais quelle image du pays avant d'y aller, d'en entendre parler pour la première fois ?
En toute honnêteté, j'ai entendu parler du pays en rencontrant une personne qui était de ce pays. Et après l'avoir rencontré, franchement, j'ai été chercher où le positionner sur une carte parce que je ne savais même pas où c'était vraiment sur la carte. Donc j'avais... Je pense à peu près comme tout le monde, une image assez floue, sans bien savoir ce que c'était. Après, le fait d'avoir justement rencontré quelqu'un de là-bas, finalement, les premières images que j'ai pu avoir, c'était à travers son récit. Et tout de suite, c'est assez rassurant de passer par le témoignage de ceux qui ont grandi, vécu, qui y sont nés, plutôt que... l'image qu'on peut en avoir dans les médias. Et je pense que l'image que je pouvais avoir, c'était aussi un peu la violence, les attentats, des choses comme ça.
Et avec cette personne, donc, tu y allais tous les ans, je l'ai dit au début, pourquoi est-ce que vous y alliez là-bas ?
On allait là-bas pour voir sa famille. Donc, c'était avec mon ex-conjoint. Et effectivement, moi, j'ai découvert un pays, au contraire, très, très riche, riche de culture, très, très doux. Entre les personnes, en fait. Un pays avec une générosité aussi entre les personnes, une grande humilité aussi, et un rapport entre les personnes qui était vraiment, pour moi, bouleversant, en fait, parce qu'il y avait une telle, une telle douceur qui contrastait justement avec ce que je pouvais penser, qui était vraiment... je sais pas comment l'expliquer, à part peut-être par des anecdotes, etc. Par exemple, j'ai cette image marquante une fois sur la route où il y a deux motos qui se rentrent dedans et donc les deux motards s'arrêtent et en fait ils se serrent dans les bras en disant Mashallah, on est vivant.
Et... ça, on verrait jamais ça en France. Oui.
Voilà, et c'est cette douceur-là, en fait, le fait de s'appeler mon frère, ma sœur, quand on rencontre quelqu'un, ça change la nature entre les personnes. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de rapport hiérarchique, mais une forme de bienveillance, en fait, qui est là par principe. Aussi une curiosité. Enfin, après, là, c'est parce que moi, j'étais étrangère, sûrement. Mais en tout cas, c'est ça qui était vraiment bouleversant, le rapport entre les personnes, et une certaine douceur, une solidarité, qui est aussi du fait de la société où on est dans un système différent, où de toute façon, il n'y a pas d'état-providence. Donc il faut compter sur la solidarité des uns et des autres. Et donc justement, quand tu parlais de pauvreté, à l'inverse, je me souviens, quand je suis rentré à Paris, après avoir vécu plusieurs mois là-bas, j'étais frappé en fait, de voir beaucoup de personnes vraiment dans la rue, SDF. Et je me disais, mais en fait, j'ai vécu à Lahore et je n'en ai pas vu. En fait, j'ai vu des personnes qui vivaient dans une extrême pauvreté. Pour autant, même si c'est des bidonvilles, etc., il n'y a pas ce côté d'avoir une personne complètement démunie dans la rue, en fait. Parce que c'est inconcevable, en fait. Il y a une telle solidarité qu'avant d'en arriver là, en fait, c'est impossible, puisque le rapport à la famille est très important. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour accueillir la personne, en fait. Et donc, de toute façon, la personne ne vit vraiment seule. Donc, ça va être une famille qui vit dans la pauvreté. Mais en fait, jamais j'ai vu là-bas une personne seule dans la rue, en fait. Et à l'inverse, je me souviens aussi de mon ex-beau-père, donc, qui est pakistanais, et qui était venu à Paris. Et on se promenait boulevard Saint-Germain. Et il y avait justement une personne à la rue, sur le boulevard Saint-Germain, qui dormait par terre. Et à ce moment-là, mon ex-beau-père me dit « Ah tiens, c'est marrant, il fait sa sieste par terre. » Et en fait, il ne pensait pas que
c'était un sans-abri, c'est comme si c'était impensable, en fait.
C'est ça, surtout lui qui venait du Pakistan et qui est à Paris, et qui imagine, la France est un pays riche, etc. Donc ça ne peut pas exister, en fait. Et c'était hyper marquant, pour lui,
c'est
juste il faisait innocence. Sa sieste.
Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a marqué lors de ton premier voyage là-bas en 2011?
Qu'est-ce qui m'a marqué comme je disais, la douceur, les paysages aussi. Enfin, après, j'étais en ville à Lahore, donc c'est ça aussi ce qui m'a marqué. C'est une énorme ville, je ne sais plus, ça doit être presque 10 millions d'habitants, enfin, c'est énorme. Et donc, il y a aussi un côté épuisant de la ville, et la ville qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. On peut rouler pendant 2 heures en voiture, on est toujours dans la même ville, en fait. Et justement, je me souviens, entre les premières fois où j'y suis allé, donc l'aéroport qui est assez récent, il y avait le périph, en fait. Et puis, en fait, au fur et à mesure des années, le périph en fait, n'était plus du tout un périph, c'était une autoroute en pleine ville. Tellement la ville s'agrandit, et elle ne s'agrandit pas en hauteur avec des grands buildings, en fait. Donc elle s'étale à l'horizontale. Et en même temps, donc dans cette ville, elle était aussi très, très fleurie. Donc une attention toute particulière, avoir tout le temps les gens de la ville en train d'arroser les plantes, sachant qu'il fait très chaud, donc il faut beaucoup d'eau pour que ce soit joli, fleuri, sur le bord des routes, etc.
Il n'y a personne qui est missionné par la mairie pour faire ça?
Si, justement, enfin les gens de la mairie, quoi.
Ah d'accord, ok, je pensais que c'était les habitants, je me disais, ah oui, ils ont une générosité extrême.
Non, les gens de la mairie, qui font ça. Enfin, j'imagine que c'est les gens de la mairie, en tout cas. Et donc, ouais, voilà, ce côté très, très fleuri, très, une attention aux fleurs, aux plantes,
à la nature,
et en même temps, l'environnement est assez, assez rude en termes de pollution. Il y a quand même peu d'espace vert. Ah, c'est pas une ville qui est faite pour marcher, par exemple. Enfin, voilà, on se déplace en voiture, en moto, à cheval, etc. Mais,
ça doit être fatigant, ça, un petit peu.
Ouais, c'est super fatigant.
Est-ce que t'es déjà allé aussi, je suppose que oui, mais dans la campagne pour voir un peu l'envers du Pakistan?
Un tout petit peu. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller dans les montagnes à Bourban, qui est un lieu un petit peu de villégiature, un lieu où souvent les gens là-bas vont en vacances. Donc effectivement, c'était j'ai moins de souvenirs, mais c'était aussi très beau. On arrive dans les montagnes. Après, effectivement, d'aller plus dans les campagnes, ça m'est arrivé une fois en allant à un mariage. Mais j'avoue, j'ai pas vu grand chose. Je vois les paysages en même temps que je suis dans la voiture. Après, j'arrive sur le lieu où je suis chez des personnes, en fait, directement. Et en même temps, de par mon statut, je me souviens, c'était un mariage justement, il y avait un contraste social, en fait, parce que c'était le mariage d'une jeune fille qui était domestique, donc qui avait été domestique dans la maison dans laquelle je vivais. Et donc, c'est vrai qu'on m'avait dit « Ah non, mais n'y va pas, tu vas être trop choquée. » Et au contraire, bah, moi, j'avais envie de... Enfin, déjà, j'avais beaucoup d'affection pour cette personne que j'avais côtoyée pendant longtemps, puisqu'elle elle vivait dans la maison. Et elle s'occupait aussi de l'enfant qui était avec nous à l'époque. Donc j'avais évidemment une grande affection pour elle. Et puis j'avais du coup envie de voir aussi comment ça se passe dans d'autres milieux sociaux, enfin dans d'autres milieux. Mais effectivement, c'est aussi s'imaginer que moi, quand j'arrive là-bas, je pense que les personnes avaient aussi un petit peu peut-être envie de me protéger.
Choc culturel.
Oui, et en fait, je me souviens, je voyais passer des enfants. Enfin, moi, du coup, j'étais dans une pièce avec mes anciens beaux-parents. Et quand même, il y avait des enfants qui passaient avec curiosité, parce que c'était certainement la première fois qu'ils voyaient une personne blanche, tout simplement. Et en même temps, c'était aussi... j'étais aussi avec mes ex-beaux-parents qui finançaient en fait aussi ce mariage et qui aussi en fait participaient à ce contraste social. Donc il y avait un petit peu une façon de pas trop mélanger. Et en même temps, j'ai quand même eu la chance quand j'étais dans ce mariage-là, je me souviens, d'avoir assisté aux préparatifs. Et il y avait deux filles qui se mariaient en même temps, deux sœurs en fait. Et au moment de la préparation, donc d'autres filles de la famille ramènent tous les bijoux, donc les bangles, les bracelets en fait, les chaussures, les robes, etc. que la future mariée n'avait pas forcément vu, mais c'était pas gênant. Et après, il y a un gros préparatif de maquillage. C'est dense, quoi. Enfin, c'est dense dans les bijoux, dans le maquillage, etc. Donc, les bracelets que son ami ou sa sœur avait ramenés étaient bien trop petits, en fait. Et donc, je me souviens qu'elle les a passés avec de la vaseline. Et elle faisait une grimace terrible, en fait, parce que ça lui faisait mal. Et moi, j'étais avec mon fils à ce moment-là, qui avait 3 ans. Et je me souviens de mon fils qui me dit, mais elle est docteur, en fait. Je pensais qu'elle était en train de lui faire subir, pas une opération, mais il pensait qu'elle avait mal et qu'elle était en train de réparer quelque chose sur son bras, en fait.
Ouais. Donc, tellement c'est improbable, en fait, de devoir se forcer et de devoir se faire mal pour ça.
Puis il ne comprenait pas trop ce qui se passait non plus, quoi.
Tu es venue un peu dessus en disant que c'était peut-être la première fois que cette femme voyait une personne blanche. Est-ce que c'était une ville quand même, 10 millions d'habitants, où il y avait d'autres étrangers pas mal, ou alors tu en croisais rarement ?
Non, je ne peux pas dire que j'en croisais beaucoup. Je me souviens, je pouvais être un petit peu en lien avec l'ambassade de France. Je pense que dans la ville, on était une dizaine, quinzaine de Français. Après, beaucoup plus d'Anglais et aussi beaucoup plus de personnes d'origine chinoise, en fait, parce qu'il y a une grosse coopération économique entre le Pakistan et la Chine. Donc, il y a plus de, effectivement, de Chinois aussi. Mais ceci dit, il y a très peu d'étrangers, en fait.
Les langues officielles sont l'anglais et l'ourdou, mais il y a aussi beaucoup de dialectes. Ouais. Toi, quelle langue tu parlais sur place ?
Je parlais l'anglais. Après, j'avais commencé un petit peu à apprendre l'ourdou, et donc je le comprenais à peu près. Après, comme j'évoluais quand même aussi dans des classes sociales aisées, tout le monde parlait anglais. Donc même si j'essayais de faire des efforts pour parler un petit peu ourdou, tout de suite les personnes me répondaient en anglais, parce que je me galérais.
Tu t'en parles un petit peu, les classes sociales, c'est... Je ne sais pas, vu que tu as dit la domestique tout à l'heure, j'imagine que c'est assez prononcé dans ce pays. Comment est-ce que c'est vécu ? Est-ce que c'est vraiment systématique, institutionnalisé un peu ce rapport des classes ? C'est un tabou ou pas forcément ?
Non, ce n'est pas un tabou, c'est juste un état de fait. Et effectivement, les différences entre riches et pauvres sont énormes, en fait, sont beaucoup plus marquées. Enfin, moi, je me souviens justement d'être en voiture et de me dire, mais en fait, dans ma poche, j'ai le salaire du chauffeur, en fait. Alors que pour moi, c'était pour aller au resto. Donc voilà, il y a des différences très marquées. Et encore une fois, comme il n'y a pas l'état providence, le fait justement que des classes sociales plus élevées vont très vite avoir des domestiques, un chauffeur, etc. C'est aussi quelquun pour faire la cuisine, etc. Ce que j'ai compris aussi de là-bas, au début c'était un peu difficile pour moi à comprendre parce que c'était aussi ces personnes qui étaient domestiques, souvent c'était quand même assez jeune. Donc j'étais souvent assez... au début, quand je suis arrivé, ça m'a un peu choqué. Et en même temps, j'ai compris que c'était aussi un système en fait où... c'est une façon d'être solidaire, en fait, parce que c'est une façon de donner un travail à quelqu'un et de le sortir plus ou moins de sa condition. Après, ça ne marche pas tout le temps. Mais par exemple, effectivement, quand je voyais au début, il y avait à la maison donc, des jeunes filles qui étaient donc, domestiques. Et comme elles étaient très jeunes, j'étais pas à l'aise, en fait. Et on m'expliquait, oui, mais tu comprends, elle vient de la campagne où il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le confort, en fait. Et souvent, c'est ses propres parents qui ont quelque part essayé de la placer, entre guillemets, dans une famille en ville, où là, elle aura l'occasion d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, ce qui ne serait pas du tout le cas si elle restait dans sa campagne, en fait, où elle serait au travail très vite, dans les champs. Pour ces jeunes filles-là, c'était l'occasion... d'avoir un confort matériel, de dormir dans une maison, regarder la télé, qui est une vie beaucoup moins rude. Et effectivement, quand moi je discutais avec ces jeunes filles-là, elles préféraient cette vie-là que la vie qui était beaucoup plus rude à la campagne, en fait. Il y avait donc une forme de confort, et il y avait un salaire qui allait directement aux parents. En fait, ce qu'on m'expliquait aussi, c'est c'est aussi une réalité d'apprendre des codes sociaux pour ces jeunes filles qu'elles n'en prendraient pas à la campagne et qui fait que potentiellement elles auront un meilleur parti pour leur mariage.
C'est ça. Elles vont s'élever dans la société.
C'est ça. Et après, il y avait d'autres domestiques que je n'ai pas rencontrés qui étaient passés par la maison avant et qui sont devenus pharmaciens, par exemple. Bon, après, ça n'arrive pas pour tout le monde, mais, ouais. C'est l'idée. Et c'est aussi l'idée d'avoir une forme de solidarité. Mais effectivement, c'était très choquant. Je me souviens d'une fois, je suis allé à un dîner et il y avait un garçon très, très jeune qui était dans les cuisines, donc d'une maison... normal quoi, chez des gens. Et mon fils qui avait 3 ans me dit je peux jouer avec le petit garçon, et moi je sais que c'est un domestique, ce petit garçon. Et du coup c'est hyper violent, enfin pour moi c'était hyper violent, j'étais je savais même pas quoi répondre, en fait. Et quelqu'un d'autre a répondu oui, après qu'il ait fini son travail. Donc c'était rude, en fait.
Ouais,
mais en même temps ça apprend, enfin moi c'est ce que j'ai appris aussi beaucoup là-bas. Ça apprend à ne pas juger, en fait. Je ne peux pas juger avec mes yeux de française, et que les choses, elles sont à la fois, elles sont telles qu'elles sont, et elles sont incluses dans une société, dans un système, et c'est facile de juger, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça.
On va faire une petite pause musicale. Tu nous as choisi une petite musique, deux petites musiques, mais on va commencer avec Dolrins, Asian Dub Foundation. Je crois que je prononce bien, ça va ?
Oui.
Et on s'écoute ça tout de suite. Ha 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 ha. super petite musique que tu nous as fait découvrir. Est-ce que tu veux nous donner un mot sur pourquoi tu as choisi cette chanson ? Qu'est-ce que ça t'évoque ?
Cette chanson m'évoque les mariages, justement, parce que les dolls qu'on entend, justement, c'était joué pendant les mariages, avant, après la cérémonie. Et j'ai assisté à des moments où c'était surtout les femmes en fait, qui jouaient les dolls. Après, c'était très, très chaleureux et plein de joie et d'allégresse.
Merci Nina pour cette petite anecdote. On va pouvoir continuer cette interview sur ton voyage au Pakistan.
La baroudeur. Une heure de voyage et de voyageurs.
Donc, j'avais une question. Déjà, est-ce que toi, tu es croyante ?
Oui.
En quoi est-ce que tu crois, si tu veux bien nous le partager déjà ?
Je suis musulmane.
Ok. Et le fait que ça soit du coup une république islamique, comment est-ce que tu vivais ça, vu que tu es musulmane Vas-y, raconte-nous un peu comment tu vivais ça.
Justement, moi, la foi est arrivée aussi en rencontrant ce pays. Et justement, d'être au contact du soufisme, d'être au contact de personnes aussi qui ont la foi. Je me suis un petit peu plongée dans la culture soufie. Donc après, pour moi, la foi, c'est quelque chose de très personnel et intime. Donc j'aime pas moi-même me poser une étiquette, en fait. Pour moi, c'est vraiment du ressort de l'intime. Et justement, de ce que je voyais, c'était... Ça change aussi le rapport entre les personnes. Après, là, j'énumère le bon côté, parce que souvent, la religion, elle est politisée. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre politique ou culturel qu'on fait passer, que les autorités, on va dire, qu'elles soient religieuses, vont faire passer pour religieux, et qu'il y a une façon de... justement, d'asseoir une autorité. Et c'est d'autant plus facile quand en face on a des personnes qui savent pas forcément lire ou écrire. Le fait de dire c'est inscrit dans la religion, ça impose une autorité. Mais souvent ce qui est dit que ça c'est dans la religion, en fait ça l'est pas, c'est culturel. Donc il y a beaucoup d'amalgame, et notamment dans l'islam, dans le rapport aux femmes, etc. Il y a beaucoup énormément de préjugés. Alors que, en fait, en regardant vraiment les textes, c'était pas ça. Moi aussi, j'ai aussi découvert à travers justement des femmes, en fait, à travers, je pense à Eva Vitré de Meyerowitz ou Anne-Marie Schimmel, qui n'étaient pas d'ailleurs forcément musulmanes, mais qui ont, en tout cas, Anne-Marie Schimmel a longtemps vécu au Pakistan et a beaucoup écrit sur la religion, le soufisme, etc. Et pour moi, ça a été des portes d'entrée. Et des portes d'entrée sans jugement, en allant vraiment au cœur du soufisme, de l'amour, en fait. Enfin, pour moi, c'est...
La religion d'amour et pas celle de haine ou qui est celle, la fausse religion, en fait.
C'est ça. C'est l'amour, en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai découvert, en fait. Enfin, voilà, d'être en capacité de donner. Alors, bien sûr, il y a des côtés hyper sombres, et je ne veux pas dresser un portrait qui soit que idéaliste. Mais néanmoins... C'est pas encore une fois d'assister à des scènes où, une fois, je me souviens, j'étais au marché et il y avait une jeune fille qui mendiait. Donc, bon, forcément, je suis blanche, donc elle mendie près de moi. Et moi, je l'ignore complètement en mode parisienne. Et j'étais avec une autre personne qui était avec moi au marché. Et qui prend le temps de lui parler, de lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ils sont où tes parents ? Pourquoi tu es en train de mendier ici ? Tu devrais être avec tes parents, t'es jeune. » Et qui lui dit « Mais bon, si tu as besoin de travail, viens dans tel endroit, telle zone de la ville. Tu verras, il y a plein de maisons, on te trouvera un travail. » Et qui la prend dans ses bras et qui lui dit « Ça va aller et Dieu t'aime. » Et moi, ça m'a bouleversée parce que je me suis dit « Mais elle lui a littéralement donné de l'amour. » à quelqu'un qu'elle connaît pas, et elle a pris ce temps, elle lui a fait un câlin, elle lui a vraiment littéralement donné de l'amour. C'est en ça que pour moi c'était vraiment bouleversant, en fait. Et du coup, c'est pour moi la religion, c'est c'est une façon de se rappeler tous les jours, en fait. Effectivement, enfin, le fait de prier pour ceux qui ont cette pratique, c'est tout autant, comment dire, cette pratique de se relier à ce qui est important, en fait. Comment je veux être au monde, c'est prendre un temps pour se rappeler ce qui est important. Et c'est pas si différent de la méditation. Sauf que quand on dit qu'on médite, bah, c'est hyper cool. Et quand on dit qu'on prie, a priori, c'est pas hyper cool. Mais pour autant, pour moi, les pratiques sont quasiment identiques, en fait. Et c'est vraiment renouveler l'amour au quotidien, en fait. Et puis se prendre de la hauteur aussi sur tout ce qui se passe et comment on a envie d'être et un rapport. Enfin, voilà. Et ça développe aussi une forme de confiance, en fait. Confiance que, bah, si on croit en un Dieu ou une autre puissance, tout va bien se passer. Enfin, tout va bien se passer. Je sais pas, il y a une petite prière que j'aime beaucoup qui dit... faudrait que je la retrouve bien, mais Allah, quand je pense que mes plans pour ma vie se sont effondrés, rappelle-moi que tes plans pour ma vie sont bien plus grands que ce que moi je peux imaginer. Et rien que de se dire ça, je trouve ça hyper apaisant, en fait, pour avancer dans la vie avec confiance. Et tant mieux s'il y a plein de gens qui n'ont pas besoin d'avoir la foi pour avoir confiance. Mais pour moi, je trouve que ça aide.
Ouais, c'est quelque chose de beau, en fait. À la fois, ça donne des ailes. C'est un pays qui est plutôt compliqué en termes de sécurité. Ce mois-ci, il y a eu un attentat, d'ailleurs, dans une mosquée qui a fait une soixantaine de morts. Est-ce que le danger, tu le sentais quand même, ou cet événement, pour toi, c'est un cas isolé et rare, selon toi ?
Non, c'est vrai que je le sentais. Et en fait, c'était visible parce que tous les endroits, il y avait... la sécurité, c'est-à-dire dans le centre commercial, là, tout partout, un centre culturel, un centre commercial, un resto, etc. Il y a un vigile qui est armé, en fait, pour justement se protéger des attentats. Donc du coup, le fait de voir des armes, en fait, tout le temps, en fait, un petit peu partout. Il y avait des checkpoints. Moi, où j'habitais, on était pas loin d'une zone militaire, donc en fait, il y avait toujours un checkpoint dans la ville, en fait, donc pour vérifier qui rentrait pas, etc. dans cette zone. Donc c'était quand même assez présent, mais c'était présent pour tout le monde. Je me souviens une fois être allé au théâtre. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que déjà, il y avait vraiment, là, pour le coup, c'était des militaires qui étaient devant la scène, donc avec leur fusil, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, c'était vraiment, il y en avait deux placés devant la scène, armés, en fait. Parce qu'en même temps, c'était un vaudeville. Donc effectivement, c'était sujet touchy. Et c'est vrai que pendant la représentation théâtrale, il y avait cette femme qui était en jupe avec des collants, et puis bah, c'est un vaudeville, donc il y a un moment, ils font semblant de s'embrasser, ils se prennent dans les bras, etc. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, je me suis dit, ouf, si ça doit péter quelque part, c'est ici, quoi. Et une fois que la session s'est terminée, justement, j'étais avec deux autres femmes, et je leur ai dit, mais moi, pendant la représentation, j'ai pensé qu'il pourrait y avoir un attentat à ce moment-là. Et elles m'ont dit, elles aussi, en fait, elles y ont pensé. Et qu'en même temps, elles vivaient avec. Et c'est vrai que, justement, je me souviens de cette autre femme qui me disait, donc elle avait des enfants qui allaient à l'école, et des fois, elles reçoivent des messages sur le téléphone qui disent, bon, voilà, il y a potentiellement un danger, là. Donc, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais c'est plutôt le gouvernement, voilà, une organisation qui disait, bon, voilà, là, il y a un risque d'attentat, donc y a pas, l'école, on n'envoie pas les enfants à l'école pendant une semaine. Et de vivre, et donc là je réalisais que eux vivaient avec ça, en fait.
Ils se sont adaptés, et je trouve ça fort en même temps. C'est courageux parce que, puisque même les femmes y ont pensé, celles avec qui t'étais au théâtre, oui, c'est risqué de faire cette pièce, mais on l'a fait quand même parce qu'il faut bien qu'on vive, en fait.
C'est ça. Et c'est exactement ça, parce que la violence, elle vient pas du gouvernement, en fait, en soi, qui était différent de celui qui est là, actuellement en place. Mais c'est aussi une violence terroriste, en fait. Donc ça vient de partout, et une lutte, et toujours une lutte interne, en fait, dans le pays. Et c'est hyper compliqué. Et après, il peut y avoir d'autres formes de violence. Après, peut-être plus dans d'autres villes, genre Karachi, où effectivement, je trouve que c'est assez notre violence, mais dû aussi au rapport aux sociaux, aux inégalités sociales, en fait. Un tel écart entre riches et pauvres que forcément, ça crée une forme
des tensions énormes.
Ouais, voilà. Beaucoup de, enfin, voilà, de violence. Mais du coup, effectivement, enfin, voilà, pour moi, ce qui était un peu bizarre, c'était de voir voilà, des hommes armés un peu tout le temps, dans tous les lieux. Et voilà, j'ai emmené mon enfant à l'école tous les matins. Il était à l'école maternelle. Il y a deux hommes armés avant d'entrer à l'école, en fait. Et c'est vrai que ça me dérangeait. Enfin, c'était... En même temps, oui, c'est pour la sécurité. Et en même temps, c'est présent visuellement au quotidien.
Maintenant, on va passer un peu à une partie un peu plus sur la culture du pays. Déjà, toi, quand tu t'es installée au Pakistan, quel travail tu comptais avoir sur place ?
Alors, quand je suis arrivée, j'avais une idée en tête qui était de créer ma marque de mode. Parce que j'aimais bien la mode et je me disais au moins je peux commencer sur place. Il y a beaucoup, en fait j'adorais la mode aussi, enfin voilà, j'adorais la mode et le fait d'aller au Pakistan régulièrement, voilà, j'avais travaillé aussi vraiment sur un book, etc. Ça m'avait influencé parce que justement j'adorais les couleurs, en fait, dans la rue, mais c'est super coloré et le noir, le gris n'existe pas, en fait, et c'était toujours des couleurs super vives et il y avait beaucoup de marchands de tissus. C'est quand même un pays du coton, où il y a c'est un pays du textile, donc les couleurs, les motifs, c'était hyper joyeux et elle m'avait beaucoup influencé. Et j'avais envie de créer une marque de mode qui soit à la fois influencée par ces couleurs-là, ces motifs, etc., dans un style contemporain. Donc c'était un petit peu ça que j'avais en tête. Et je passais pas mal de temps au marché, justement, à aller chercher du tissu, etc. Et je me disais, j'aimerais bien travailler aussi avec des communautés de femmes. Et puis aussi mettre en avant aussi tout l'artisanat, en fait, toute la broderie. Enfin, il y a un travail assez exceptionnel. J'aimais bien aussi tous les créateurs qui étaient sur place. Il y a vraiment ce rapport à la mode là-bas qui était intéressant aussi par les mariages, où du coup, c'est des robes incroyables.
Traditionnelles.
C'est ça, avec beaucoup de bling-bling à fond, quoi.
Et finalement, ça s'est fait ?
Finalement, ça ne s'est pas fait. C'est vrai que j'ai vu les limites. En fait, je me disais, tiens, oui, je vais au marché, je vais chercher du tissu, etc. Et en même temps, je me disais, tiens, ce serait peut-être plus intéressant de faire avec du coton bio, par exemple, parce que c'était une ville qui était quand même extrêmement polluée, vraiment. Donc ça, c'était, rien que de sortir, j'avais le nez, les yeux qui piquent, la gorge qui pique, en restant une heure au parc, en fait. C'était vraiment dur, ça. Enfin, il y avait toujours un nuage de fumée énorme. Et je me souviens des pubs à la télé pour des produits phytosanitaires à mettre sur les champs, etc. Sachant que Monsanto vend au Pakistan, mais comme en Inde et dans d'autres pays, des produits phytosanitaires qui sont interdits en Europe. Donc en m'intéressant aussi au sujet, de voir les agriculteurs qui meurent à 50 ans, c'est pas l'ordre du hasard. Hein. Et tout ça, il n'y avait pas trop de conscience écologique, mais parce qu'il y a d'autres actualités, d'autres sujets, etc.
Il y a d'autres problèmes plus importants, on va dire, enfin, à leurs yeux, en tout cas.
Après, ça c'était pas à l'ordre politique, en tout cas. Donc, c'était pas un sujet qui était trop évoqué dans les médias. Après, ça n'empêchait pas qu'il y ait des initiatives, beaucoup d'initiatives locales, et que la jeunesse s'empare du sujet aussi. Mais néanmoins, c'était pas à l'ordre du jour. L'agriculture bio, c'était pas à l'ordre du jour. Le coton bio, pas trop. Néanmoins, donc j'avais voulu sourcer du coton bio et je suis tombé sur une marque allemande qui s'appelait Athletic, qui fait des baskets vegan en coton bio et qui les fait au Pakistan. Et du coup, j'étais entré en contact avec eux et ils m'avaient donné en fait justement leur contact de leurs usines, de leurs producteurs de coton pour que je puisse éventuellement développer ce que j'avais envie de développer. Puis finalement, j'ai travaillé pour eux.
Donc finalement, c'était bien aussi.
C'était bien aussi.
Est-ce que tu avais déjà un certain rapport avec l'art, la mode, avant de venir au Pakistan ?
Oui, je traversais les expositions d'art contemporain. Enfin voilà, j'ai toujours été féru d'art contemporain. Et puis dans mon métier précédent, j'organisais des expositions, beaucoup de photos. Et je passais beaucoup de temps en fait dans les foires d'art contemporain, dans les expos, dans les galeries. J'avais un blog à l'époque où justement je parlais de toutes ces expositions. Je mettais en contact de l'art contemporain en général.
On va écouter une petite musique et juste après, j'aimerais bien qu'on parle du coup un peu plus de cet art, de la culture soufie ou autre dont tu nous as un petit peu parlé juste avant. Donc, on va écouter cette fois Last Night de Arooj Aftab. Et du coup, c'est parti.
Last night, my beloved was like the moon, so beautiful. Last night, my beloved was like the moon, so beautiful. Last night, my beloved was like the moon, so beautiful, so beautiful like the moon, so beautiful like the moon, so beautiful like the moon, even brighter than the sun. Was even brighter than the sun, was even brighter than the sun, was even brighter than the sun, Gaya na ko
beautiful like the moon. So 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 beautiful like the moon.
Alors Nina, tu nous expliques pourquoi est-ce que tu as choisi cette très très belle chanson?
J'ai choisi cette très belle chanson parce qu'elle est très belle, parce que c'est Arooj Aftab, que j'aime beaucoup, qui est une artiste pakistanaise qui vit aux États-Unis et qui est justement dans cette de fusion, en fait, de continuer à la fois dans cet esprit mystique, soufi, et de l'interpréter complètement avec tout ce qu'elle a, avec tout son talent, et de le faire dans... à sa manière, et on sent aussi une, moi je ressens une énergie particulière, comme on en parlait à l'instant, une forme de transe, justement, et encore ce côté mystique, en fait, qui nous relie, qui nous transporte, en tout cas, enfin, qui me transporte, en tout cas.
La Baroudeur. Une heure de voyage et de voyageurs.
Alors, tu n'arrêtes pas d'utiliser ce mot soufi. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça veut dire que soufi?
C'est une bonne question. Est-ce que j'ai la réponse en rapide? Je ne sais pas. Mais c'est une culture. Pour certains, c'est un rapport à la religion, en fait. C'est aussi une culture poétique. C'est beaucoup de poètes, en fait, qui célèbrent l'amour, en fait. Et qui célèbrent l'amour de Dieu. Et en même temps, en célébrant l'amour de Dieu, c'est célébrer le sacré, c'est célébrer tout ce qui est vivant, c'est aussi rendre la gratitude aussi, et de s'émerveiller, en fait, de s'émerveiller de chaque chose, de s'émerveiller de chaque instant, parce que justement, finalement, tout ce qui existe, existe grâce à Dieu, et donc lui faire honneur. C'est comme ça que je le décris. Après, il y a beaucoup de livres sur le sujet, mais je le vois comme ça, en fait. Donc cette culture de, à la fois, oui, de religieuse et poétique, parce que justement elle se transmet par la poésie, en fait, pas que, mais beaucoup, en fait, on va citer des auteurs qui ont infusé justement cette culture. Et donc des auteurs, des soufis qui pouvaient effectivement entrer en transe, en fait, d'être vraiment dans cette célébration de la vie, et en dehors, quelque part, parfois des codes religieux. Justement, des fois dans la culture soufie, elle peut célébrer l'ivresse, en fait, parce que l'ivresse aussi de la vie, de vivre pleinement aussi. Pour certains, la culture soufie, et justement, ça peut faire naître des tensions au Pakistan, parce que cette culture soufie, en fait, elle est présente, elle est à l'origine de. Elle est culturellement présente. Pour autant, y a des forces dans le pays qui sont beaucoup plus conservatrices et pour qui cette culture-là n'a pas la place, ne devrait pas être là, parce qu'elle est un petit peu plus, elle n'est pas très protocolaire. Elle ne respecte pas les codes d'une autre forme de religion qu'eux interprètent comme elle devrait être. Donc, ce qui peut créer des tensions, des attentats, etc. Mais néanmoins, justement, moi j'ai découvert la culture soufie en découvrant le Pakistan, en me penchant sur la poésie, les auteurs. Et c'est quelque chose, en fait, ça m'a beaucoup touché, parce que justement, c'était une poésie qui était ancrée dans une culture populaire. En fait, de rencontrer des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire et qui pour autant récitaient Rumi. Parce que c'était une culture orale qui se transmettait, en fait, à travers justement des chants, à travers la poésie, et donc des femmes qui berçaient leurs enfants en chantant Rumi. Et pour moi, c'était vraiment très émouvant. Rumi, c'est un auteur, d'accord, un poète.
Et tout ça, c'est des choses qui, du coup, toi, t'ont beaucoup influencé dans ta manière après d'approcher l'art et la poésie et tout ça.
Ça m'a fait découvrir effectivement une autre forme de poésie, en fait. Enfin, et ça a influencé mon rapport justement à la foi, justement de d'avoir un rapport à la foi qui est assez libre, au-delà des codes, etc., mais d'avoir je sais pas trop comment l'exprimer, mais cette intériorité, en fait. Encore une fois, cette notion d'amour qui est vraiment au cœur de la culture soufie. Alors, à la fois, oui, c'est l'amour divin, mais c'est l'amour en toute chose. Et d'en faire vraiment un principe de vie et de célébrer chaque instant. Voilà, j'ai plongé avec plaisir dans la poésie soufie, la culture soufie, qui est aussi, qui a été, je sais pas, je trouve des mots très réconfortants. Et puis, pas des principes, mais c'était inspirant. Ouais.
Je sais que maintenant, tu as une émission sur Prune qui parle de poésie. Alors, quelle émission c'est ?
Alors, ça s'appelle Transpoésie. Et justement, c'est sur la fusion entre musique et poésie. Et justement, l'idée, c'est d'aller chercher en fait, des poèmes qui sont repris en musique. Et pas juste deux, trois notes de piano derrière, mais vraiment un peu comme dans la trance, comme la chanson qu'on vient d'entendre. Parce que Arouj Aftab, justement, dans cette chanson, elle cite des vers de Rumi, justement. Et donc, d'atteindre une forme de transe entre les mots et la musique, d'atteindre aussi le sensible, en fait, et d'aller chercher donc, des musiques inspirées par des poèmes dans toutes les langues du monde. Parce que pour moi, la poésie, justement, elle passe aussi par l'oral. C'est pour moi une porte d'entrée dans la poésie, et c'est aussi... aller chercher, enfin avoir une heure où on peut aller rentrer comme dans un voyage vers le sensible, en fait, un peu à la recherche de la transe à travers la voix et le rythme. Et c'est vrai que dans cette culture soufie, il y a ce côté mystique, en fait, où je sais pas, des fois on sait pas, mais d'un seul coup nos poils se dressent en écoutant telle ou telle musique, parce qu'il y a une telle profondeur, une telle intensité, une telle sincérité, en fait, dans la personne qui le lit, qui le chante, qui le vit. Et c'est ça qu'en fait j'aime aller chercher, en fait. Et finalement, ça se produit. Ça se produit dans des musiques inspirées de musique soufie, de poèmes soufis, mais pas que, en fait, et aussi dans la poésie en général, et aussi dans le rap, et aussi dans toutes les formes actuelles. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre tout ça ensemble, en fait, sans faire de frontières entre, un Paul Éluard, un Rumi, ou une Kenny Arcana, parce que chacun a sa manière de faire vivre la poésie aujourd'hui. Donc c'est un peu ça le principe de l'émission.
C'est très complet, ça a l'air riche en tout cas. Quand est-ce qu'on peut l'écouter sur Prune ?
Alors sur Prune, c'est le dernier samedi du mois à 20h. Et sinon, comme ça s'appelle Transpoésie, on la retrouve sur le site de Prune, sur Deezer et Spotify aussi.
Merci. Alors juste avant qu'on se quitte, je vais te laisser une petite carte blanche. Donc c'est-à-dire que soit tu nous parles d'un endroit où tu es allé, d'une personne, une rencontre que tu as fait, ou une anecdote plus générale, comme tu veux.
Alors je choisis de partager un poème, en fait, de Rabia Basri, qui est une femme mystique, une poétesse musulmane, une figure majeure du soufisme. Donc on est à l'époque, on est dans les années 700, elle est morte en l'an 801. Et je trouve qu'elle, ses mots incarnent justement le soufisme et cette notion d'amour. Donc elle dit « Mon Dieu, si je t'adore par crainte de ton enfer, brûle-moi dans ces flammes. Et si je t'adore par crainte de ton paradis, prive-moi. Je ne t'adore, Seigneur, que pour toi, car tu mérites l'adoration. Alors ne me refuse pas la contemplation de ta face majestueuse. » Et voilà, ce que j'aime dans ces mots, pour moi, ils sont vraiment représentatifs, justement, de cette culture soufie, d'être dans l'amour avant toute chose. Et qu'à travers l'amour divin, c'est l'amour en toute chose qui se propage.
Merci beaucoup pour ce petit poème. On va terminer sur une autre chanson un peu typique pakistanaise. Et du coup, voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec moi pour cette émission. C'était un plaisir.
Merci pour l'invitation.
ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਆਂ